Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Quant à M. Earnshaw, il n'entendait pas la plaisanterie de la part de ses enfants. Il avait toujours été strict et grave avec eux. Catherine, de son côté, ne comprenait pas que son père fût plus irritable et moins patient dans son état maladif qu'il ne l'était au temps de sa vigueur. Ces maussades de réprimande faisaient naître en elle un malicieux plaisir à l'irriter. Elle n'était jamais aussi contente que quand nous la grondions tous ensemble et qu'elle nous défiait de son regard effronté, impertinent et de ses réponses toujours prêtes. Elle tournait en ridicule les malédictions sacrées de Joseph, me taquinait et faisait juste ce que son père détestait le plus en montrant comment son insolence affectée, qu'il croyait réelle, avait plus d'effet sur Heathcliff que la bonté que lui-même lui témoignait. Comment le jeune garçon obéissait à elle en tout et n'obéissait à lui que quand son obéissance s'accordait avec sa propre volonté. Après s'être conduite aussi mal que possible pendant toute la journée, elle venait quelquefois câliner le vieillard le soir pour se raccommoder avec lui. « Non, Katie, disait-il, je ne veux pas t'aimer, tu es pire que ton frère. Va dire tes prières, mon enfant, et demande pardon à Dieu. Je crains que ta mère et moi n'ayons pas lieu de nous féliciter de t'avoir élevé. » Cela le faisait pleurer au début, puis à force d'être repoussée, elle s'endurcit et elle riait quand je lui conseillais de dire qu'elle regrettait ses fautes et de demander pardon. Mais enfin sonna l'heure qui mit un terme aux épreuves de M. Earnshaw ici-bas. Il mourut paisiblement, un soir d'octobre, assis au coin du feu. Un grand vent soufflait autour de la maison et rugissait dans la cheminée. C'était un bruit de tempête, d'ouragan. Pourtant, il ne faisait pas froid. Nous étions tous réunis, moi, un peu éloigné du foyer, occupé à tricoter, et Joseph à lire sa Bible près de la table, car les serviteurs se tenaient à l'ordinaire dans la salle quand leur travail était fini. Miss Katie avait été souffrante, à cause de quoi elle restait tranquille. Elle était appuyée contre la jambe de son père et Heathcliff était allongé par terre, la tête sur les genoux de Cathy. Je me rappelle que le maître, avant de s'assoupir, caressa ses jolis cheveux. Il n'avait pas souvent le plaisir de la voir gentille. Et il dit « Pourquoi ne peux-tu toujours être une bonne fille, Cathy ?» Elle leva la tête vers lui et répondit en riant « Pourquoi ne pouvez-vous pas toujours être un bonhomme, papa ?» Mais dès qu'elle le vit à nouveau fâché, elle lui baisa la main et dit qu'elle allait lui chanter une chanson pour l'endormir. Elle commença de chanter très bas. Jusqu'au moment où les doigts de son père abandonnèrent les siens, et où sa tête tomba sur sa poitrine. Je lui dis alors de se taire et de ne pas bouger de peur de l'éveiller. Nous restâmes tous muets, comme des souris, pendant une bonne demi-heure, et nous aurions continué encore plus longtemps si Joseph, ayant fini son chapitre, ne se fût levé en déclarant qu'il allait éveiller le maître afin que celui-ci dît ses prières et alla se coucher. Il s'approcha, l'appela par son nom et lui toucha l'épaule. mais comme le maître ne remet pas, Joseph prit la chandelle et le regarda. Je devinai qu'un malheur était arrivé quand il reposa la lumière et que, saisissant les enfants chacun par un bras, il leur dit tout bas de monter, de ne pas faire de bruit. Il pouvait réciter leur prière tout seul ce soir, lui-même avait quelque chose à faire. « Je veux d'abord dire bonsoir à papa, » répliqua Catherine en lui mettant les bras autour du cou avant que nous eussions pu l'arrêter. La pauvre enfant s'aperçut aussitôt de la perte qu'elle venait d'éprouver et elle s'écria « Oh, il est mort, Heathcliff, il est mort !» Et tous deux jetèrent un cri déchirant. Mes lamentations se joignirent aux leurs, bruyantes et douloureuses. Mais Joseph nous demanda à quoi nous pensions de pousser de pareils hurlements sur un saint qui était au ciel. Il me dit de mettre mon manteau et de courir à Gimmerton pour chercher le docteur et le pasteur. Je ne voyais pas quel service ils pourraient rendre l'un ou l'autre maintenant. J'y allais néanmoins, par le vent et la pluie, et ramenai l'un d'eux, le docteur. L'autre dit qu'il viendrait dans la matinée. Laissant Joseph expliquer ce qui s'était passé, je courus à la chambre des enfants. Leur porte était entrebâillée et je vis qu'il n'était pas couché, bien qu'il fût plus de minuit. Mais ils étaient plus calmes et je n'eus pas besoin de les consoler. Les petits êtres se réconfortaient l'un l'autre avec de meilleures pensées que je n'en aurais pu trouver. Jamais pasteur n'a dépeint le ciel aussi beau qu'il le faisait dans leur innocent babillage. Et tandis que j'écoutais en sanglotant, je ne pouvais m'empêcher de souhaiter que nous y fussions tous réunis en sûreté. Monsieur Hindley revint pour les funérailles. Et chose qui nous stupéfia et fit jaser les voisins de droite et de gauche, il nous revint avec une femme. Qui était-elle? Où était-elle née? C'est ce dont il ne nous fit jamais part. Sans doute n'avait-elle ni dot ni nom qui la recommandasse, sans quoi il n'aurait pas dissimulé cette union à son père. Elle n'était pas femme à apporter par elle-même beaucoup de troubles dans la maison. Tout ce qu'elle vit du moment qu'elle eut franchi le seuil parut la ravir, ainsi que tout ce qui se passait autour d'elle, hormis les préparatifs de l'enterrement et la présence des veilleurs funèbres. Je la jugeai à moitié stupide. D'après sa conduite en cette occasion. Elle courut à la chambre, m'y entraîna, bien que j'eusse à habiller les enfants, et s'assit toute frissonnante, les mains jointes, demandant sans cesse « Sont-ils partis ?» Puis elle se mit à décrire avec une émotion hystérique l'effet que lui produisait la vue du noir. Elle frémissait, tremblait, finit par se mettre à pleurer, et quand je lui demandai ce qu'elle avait, me répondit qu'elle ne savait pas, mais qu'elle avait si grand peur de mourir. Je pensais qu'elle n'était pas plus menacée de mourir que moi-même. Elle était plutôt mince, mais jeune, avec des couleurs vives et des yeux qui étincelaient comme des diamants. J'avais remarqué, il est vrai, qu'elle s'essoufflait en montant l'escalier, que le moindre bruit soudain la faisait tressaillir et qu'elle toussait parfois d'une façon inquiétante. Mais je n'avais pas idée de ce que signifiaient ces symptômes et ne me sentais pas porté à sympathiser avec elle. Nous ne nous attachons pas en général aux étrangers ici, monsieur Lockwood, à moins qu'ils ne s'attachent à nous d'abord. Le jeune Earnshaw avait beaucoup changé pendant ces 3 années d'absence. Il avait maigri, avait perdu ses couleurs, parlait et s'habillait tout différemment. Le jour même de son retour, il nous enjoignit à Joseph et à moi de nous cantonner à l'avenir dans la cuisine et de lui laisser la salle. Il aurait même voulu faire mettre un tapis et du papier dans une chambre disponible pour en faire un petit salon. Mais sa femme était si enchantée du dallage blanc, de la grande cheminée brillante, des plats d'étain, de la case aux faïences, du chenil et du vaste espace dont on disposait dans cette salle où il se tenait habituellement, qu'il jugea la réalisation de ce projet inutile à son bien-être et qu'il l'abandonna. Elle manifesta aussi le plaisir qu'elle avait à trouver une sœur parmi ses nouvelles relations. Elle bavarda avec Catherine, l'embrassa, courut partout avec elle et lui fit quantité de présents au début. Son affection se fatigua bien vite cependant, et quand elle devint maussade, Hindley devint tyrannique. Quelques mots laissant paraître que Heathcliff déplaisait à sa femme suffirent pour réveiller en lui toute sa haine pour le garçon. Il le repoussa de leur société dans celle des domestiques, le priva des enseignements du ministre, voulut qu'ils fussent remplacés par des travaux au dehors et exigea de lui le même labeur que d'un valet de ferme. Heathcliff supporta son avilissement assez bien dans les premiers temps parce que Cathy lui enseignait ce qu'elle apprenait, travaillait et jouait avec lui dans les champs. Tous deux promettaient vraiment de devenir aussi rudes que des sauvages. Le jeune maître ne s'occupait en rien de la manière dont il se conduisait, ni de ce qu'il faisait, pourvu qu'il ne les vît point. Il n'aurait même pas tenu la main à ce qu'ils allassent à l'église le dimanche, si Joseph et le ministre ne lui eussent adressé des remontrances sur son indifférence à l'égard de leurs absences, ce qui lui faisait souvenir d'ordonner le fouet pour Heathcliff et une privation de dîner ou de souper pour Catherine. Mais c'était un de leurs grands amusements que de se sauver dans les Landes dès le matin et d'y rester toute la journée. La punition subséquente n'était plus qu'un objet de moquerie. Le ministre pouvait donner autant de chapitres qu'il voulait à apprendre par cœur à Catherine, et Joseph pouvait fouetter Heathcliff jusqu'à en avoir le bras engourdi. Ils oubliaient tout dès qu'ils étaient de nouveau réunis, ou du moins dès qu'ils avaient combiné quelque vilain plan de vengeance. Bien souvent, je pleurais à part moi de les voir devenir chaque jour plus effrontés, et je n'osais pourtant prononcer une syllabe par crainte de perdre le peu d'empire que j'avais encore sur ces deux êtres privés d'affection. Un dimanche soir, il arriva qu'ils furent chassés de la salle pour avoir fait du bruit ou pour quelques peccadilles du même genre. Quand j'allais les rappeler pour le souper, je ne pus les découvrir nulle part. Nous fouillâmes la maison du haut en bas, la cour et les écuries. Ils demeuraient invisibles. À la fin, Hindley, en furie, nous ordonna de verrouiller les portes et interdit à qui que ce fût de les laisser rentrer cette nuit-là. Tout le monde alla se mettre au lit. Pour moi, l'inquiétude m'empêchant de rester couché, j'ouvris ma fenêtre et passai la tête au dehors pour écouter, bien qu'il plût. J'étais déterminé à leur ouvrir malgré la défense s'ils revenaient. Au bout de quelque temps, j'entendis des pas sur la route et la lumière d'une lanterne brilla à travers la barrière. Je jetai un châle sur ma tête et courus pour les empêcher d'éveiller M. Hirschnow en frappant. C'était Heathcliff, seul. Et je tressaillis en ne voyant que lui. « Où est Miss Catherine ?» lui criai-je vivement. « Pas d'accident, j'espère. »« À Thrush Cross, » répondit-il. « Et j'y serais aussi s'ils avaient eu la politesse de me demander de rester. »« Eh bien, vous verrez ce que cela vous coûtera. Vous ne serez content que quand vous vous serez fait chasser. Que pouviez-vous bien faire à rôder du côté de Thrush Cross ?» Laissez-moi enlever mes vêtements mouillés et je vous raconterai tout. Nelly. Je lui recommandai de prendre garde de réveiller le maître. Et pendant qu'il se déshabillait et que j'attendais pour souffler la chandelle, il poursuivit.
If you're traveling in the North Country fire, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She was once a true love of mine. If you're traveling when the snowflakes storm, when the rivers freeze summer ends. Make sure she has a coat so warm to keep her from the howling winds. Please see for me if her hair's hanging long, if it rolls and flows off down her breast. Please see for me if her hair hangs long. That's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. So if you're traveling in the North Country fire, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She was once a true love of mine.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Léo de Hurlevent, Émilie Brontë. Cathy et moi, nous étions échappés par la buanderie pour nous promener à notre fantaisie. Apercevant les lumières de la grange, nous avons eu l'idée d'aller voir si les Linton passaient leur soirée du dimanche à grelotter dans les coins pendant que leurs parents mangeaient, buvaient, chantaient et riaient et se brûlaient les yeux devant le feu. Croyez-vous qu'il en soit ainsi ? Ou qu'ils lisent des sermons qu'un vieux domestique les catéchise et qu'on leur donne à apprendre une colonne de noms de l'écriture s'ils ne répondent pas convenablement. Probablement pas. Ce sont des enfants sages, sans doute, et ils ne méritent pas les traitements qu'on vous inflige pour votre mauvaise conduite. Oh, pas de prêche, Nelly. Sottise que tout cela. Nous avons couru sans nous arrêter depuis le sommet des Hauts jusqu'au parc. Catherine complètement battue dans la course car elle était nu-pieds. Vous pourrez chercher ses souliers dans les fonderies demain. Nous nous sommes glissés par un trou de haie, nous avons suivi à tâtons le sentier et nous nous sommes plantés sur une plate-bande de fleurs sous la fenêtre du salon. C'est de là que venait la lumière. On n'avait pas fermé les volets et les rideaux n'étaient qu'à demi tirés. Nous pouvions regarder à l'intérieur tous les deux, en nous tenant debout sur le soubassement et en nous accrochant au rebord de la fenêtre, et nous avons vu. Ah, c'était magnifique! Une splendide pièce avec un tapis rouge, des chaises et des tables couvertes en rouge, un plafond d'un blanc éclatant bordé d'or et au milieu une pluie de lames de verre suspendues par des chaînes d'argent et illuminées par la douce lueur de petites bougies. Le vieux monsieur et la vieille madame Linton n'étaient pas là. Edgar et sa sœur étaient tout seuls. N'aurait-il pas dû être heureux? Nous nous serions crus au ciel, nous. « Eh bien, savez-vous ce que faisaient vos enfants sages ?»« Isabelle, je crois qu'elle a 11 ans, un an de moins que Cathy, était couchée sur le parquet à l'extrémité de la pièce, criant comme si des sorcières la lardaient avec des aiguilles chauffées à blanc. Edgar, près du feu, pleurait en silence. Au milieu de la table était assis un petit chien qui secouait sa patte et qui glapissait. À leurs mutuelles accusations, nous comprîmes qu'ils l'avaient presque écartelé à eux deux. Les idiots. Voilà à quoi ils s'amusaient. Se disputer un paquet de poils chauds et se mettre à pleurer parce que tous deux, après s'être battus pour l'avoir, refusaient de le prendre. Nous avons ri de bon cœur à la vue de ces enfants gâtés. Quel mépris nous avions pour eux. Quand me ferez-vous désirer d'avoir ce que désire Catherine ? Ou quand nous trouverez-vous tous deux seuls nous amusant à sangloter, à nous rouler par terre, chacun à un bout de la chambre ? Je ne changerai pour rien au monde ma situation ici, pour celle d'Edgar Linton à Thrush Cross. Pas même si j'y gagnais le privilège de voir jeter Joseph du haut du pignon le plus élevé et badigeonner la façade de la maison avec le sang des Hindley. Assez, assez, interrompis-je. Vous ne m'avez pas toujours dit, Heathcliff, comment vous aviez laissé Catherine là-bas. Je vous disais que nous rions, reprit-il. Les Linton nous ont entendus et d'un même mouvement se sont précipités à la porte comme des flèches. Il y a eu un silence, puis un cri. « Oh maman, maman, oh papa, oh maman, venez, oh papa, oh !» Réellement, ils ont vociféré quelque chose dans ce goût-là. Nous avons fait un bruit terrible pour les effrayer encore plus, puis nous avons lâché le rebord de la fenêtre parce que quelqu'un tirait les barres et que nous sentions qu'il valait mieux nous enfuir. Je tenais Cathy par la main et la pressais quand tout à coup elle est tombée par terre. « Sauve-toi, Heathcliff, sauve-toi » a-t-elle chuchoté. « Ils ont lancé le bulldog et il me tient. » Le démon l'avait saisi par la cheville, Nelly. J'entendais son abominable grognement. Elle n'a pas poussé un cri, non. Elle en aurait rougi, eût-elle été embrochée sur les cornes d'une vache en furie. Mais moi j'ai crié. J'ai proféré assez de malédictions pour anéantir tous les démons de la chrétienté. Saisissant une pierre, je l'ai fourrée entre les mâchoires du chien et j'ai essayé de toute ma force de l'enfoncer dans sa gorge. Un animal de domestique a fini par arriver avec une lanterne en criant « Tiens bon, Skulker, tiens bon !» Il a changé de ton cependant quand il a vu la proie de Skulker et lui a fait lâcher prise en le suffoquant. La langue pourpre de la bête pendait d'un demi-pied hors de sa gueule et de ses lèvres coulait une bave sanglante. L'homme a relevé Cathy. Elle se sentait mal, non de crainte, j'en suis certain, mais de douleur. Il l'a portée dans la maison. Je suivis, en poussant des imprécations et des cris de vengeance. « Qu'a-t-il attrapé, Robert ?» a crié Linton de l'entrée. « Skulker a attrapé une petite fille, monsieur, et voilà un garçon !» a-t-il ajouté en me montrant le poing. Qui m'a tout l'air d'être un éclaireur. Vraisemblablement, les voleurs voulaient les faire passer par la fenêtre pour ouvrir les portes à la bande, quand tout le monde aurait été endormi afin de pouvoir nous assassiner à leur aise. Taisez-vous, voleurs mal embouchés, cela vous vaudra la potence. Monsieur Linton, ne quittez pas votre fusil. Non, non, Robert, dit le vieil imbécile. Les coquins savaient qu'hier c'était le jour de mes loyers. Ils ont cru faire un bon coup. Entrez, je vais leur offrir une réception. Là, John, attachez la chaîne, donnez un peu d'eau à Skulker. Jenny, défiez un magistrat dans sa forteresse et un jour de sabbat encore, où s'arrêtera leur insolence. Oh, ma chère Marie, regardez, n'ayez pas peur, ce n'est qu'un gamin. Et pourtant, la scélératesse est bien peinte sur son visage. Ne serait-ce pas un bienfait pour le pays de le pendre sur le champ avant que son naturel, révélé par ses traits, se manifeste par des actes ? Il m'a poussé sous le lustre. Madame Linton a chaussé ses lunettes et levé les mains avec un geste d'horreur. Les poltrons d'enfants se sont approchés aussi. Isabelle balbutiait. « Quel être affreux ! Mettez-le dans la cave, papa ! Il ressemble tout à fait au fils de la diseuse de Bonaventure qui m'a volé mon faisan apprivoisé. N'est-ce pas, Edgar ?» Pendant qu'elle m'examinait, Cathy est arrivée. Elle avait entendu ses dernières paroles et elle s'est mise à rire. Edgar Linton, après lui avoir lancé un regard inquisiteur, a repris suffisamment ses esprits pour la reconnaître. Ils nous voient à l'église, vous savez, et nous ne les rencontrons d'ailleurs que là. « C'est Miss Earnshaw, » disait-il tout bas à sa mère, « et regardez comme Skulker l'a mordu, comme son pied saigne. »« Miss Earnshaw, quelle bêtise !» s'est écriée la dame. « Miss Earnshaw battant le pays avec un bohémien !» Et pourtant c'est vrai, l'enfant est en deuil, sûrement c'est elle, et elle est peut-être estropiée pour la vie. « Quelle coupable négligence de la part de son frère !» a gémi M. Linton, me quittant pour se tourner vers Catherine. « J'ai entendu dire par Childers, c'était le pasteur, qu'il la laisse croître dans l'impiété la plus complète. Mais qui est l'autre ? Où a-t-elle ramassé ce compagnon ? Oh oh ! C'est certainement cette étrange acquisition que feu mon voisin avait faite lors de son voyage à Liverpool, un petit lascar, ou quelques rebuts de l'Amérique ou de l'Espagne. Un méchant garçon, en tout cas, a observé la vieille dame, et tout à fait déplacé dans une maison honnête. Avez-vous remarqué son langage, Linton ? Je suis scandalisé que mes enfants l'aient entendu. J'ai recommencé à jurer. Ne vous fâchez pas, Nelly. Et Robert a reçu l'ordre de me mettre dehors. J'ai refusé de m'en aller sans Cathy. Il m'a traîné dans le jardin, m'a forcé de prendre la lanterne, m'a assuré que M. Earnshaw serait informé de ma conduite et, m'enjoignant de me mettre en route sur le champ, il a refermé la porte. Les rideaux étaient encore relevés dans un coin et j'ai repris mon poste d'observation, car si Cathy avait désiré partir et qu'ils n'eussent pas voulu la laisser sortir, j'avais l'intention de briser leur grande vitre en un million de morceaux. Elle était tranquillement assise sur le sofa. Madame Linton lui a enlevé le manteau gris de la laitière que nous avions emprunté pour notre excursion, en secouant la tête et en lui adressant des remontrances, je suppose. Cathy était une jeune fille de bonne naissance, et il faisait une distinction entre les manières de nous traiter, elle ou moi. Puis la femme de chambre a apporté une cuvette d'eau chaude et lui a lavé les pieds. M. Linton lui a préparé un grand verre de négus. Isabelle lui a vidé une assiette de gâteau sur les genoux, pendant qu'Edgar, bouche bée, la regardait de loin. Ensuite, ils ont séché et peigné ses beaux cheveux, lui ont donné une paire d'énormes pantoufles et l'ont poussé près du feu. Je l'ai laissée aussi gaie qu'elle pouvait être, en train de partager ses gâteaux au petit chien et à Skulker dont elle pinçait le nez pendant qu'il mangeait. Sa vue faisait luire dans les ternes yeux bleus de Linton une étincelle de vie, vague reflet de sa figure enchanteresse. Je voyais qu'ils étaient remplis d'une admiration stupide. Elle est si démesurément supérieure à eux. À n'importe qui sur terre, n'est-ce pas, Nelly ? Cette histoire-là aura plus de suite que vous le croyez, répondis-je en bordant son lit et en éteignant la lumière. Vous êtes incorrigible, Heathcliff, et M. Hindley sera obligé d'en venir à des mesures extrêmes, vous verrez. Mes paroles se trouvèrent plus vraies que je ne le désirais. Cette malencontreuse aventure rendit Earnshaw furieux. Puis M. Linton, pour arranger les choses, nous rendit visite le lendemain et fit au jeune maître une telle leçon sur sa façon de diriger sa famille que ce dernier se décida à s'occuper sérieusement de ce qui se passait chez lui. Heathcliff ne fut pas fouetté, mais il fut averti qu'au premier mot qu'il adresserait à Miss Catherine, il serait infailliblement chassé. De son côté, Madame Earnshaw entreprit de discipliner un peu sa belle-sœur quand celle-ci rentra à la maison. Elle usa d'adresse et non de force. Par la force, elle ne serait arrivée à rien. Voici donc pour ce soir la suite de ces Odes Hurlevent que nous retrouverons la semaine prochaine dans nos habituelles lectures en liberté. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.